Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Et moi, j'aime l'entreprise.
On pourrait faire buter un patron par un professionnel.
J'aime l'entreprise.
Là, je mettrais plus les pieds dans le ton, là.
Faut que tu rationalises.
Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. C'est toutes noires, hein.
Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1.
Mais quel patron?
C'est la solution la plus rentable. Donc, la seule.
Sans publicité, il n'y aurait plus liberté d'idée.
Il y a un troussage de domestiques, je vois, c'était pas bien.
Mot d'ordre central, brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire dans l'émission Offensive Sonore. Et aujourd'hui, on reçoit Anna pour nous parler de la Revue Z. Donc la Revue Z, un magazine de critique sociale qui dure depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc déjà, Anna, bonsoir, merci d'être là. Et est-ce que tu pourrais nous présenter la Revue Z ?
Bah ouais, carrément, avec plaisir. Et merci pour l'invitation. Et oui, tu disais 10 ans, c'est même plutôt 13 ans maintenant, parce que ça a commencé en 2009. Et en gros, c'était une bande de un peu dissidents de leur discipline et dissidentes. Donc c'était des journalistes qui n'avaient pas trop envie de faire le métier classique de journaliste, des sociologues qui avaient envie d'être au service des luttes sociales, enfin voilà, des gens qui avaient envie de détourner un peu leurs compétences et leur formation, qui ont décidé de créer un média d'enquête et de critique sociale. Et du coup, l'ADN, quoi, la spécificité de la revue depuis le début, c'est qu'on chaque année, donc c'est une fois par an, hein, c'est en gros pour décrire un peu l'objet, c'est une revue qui est illustrée et qui est un peu sous un format A4 et qui fait environ 200 pages et qui sort une fois par an. Et du coup, ben, chaque année, il y a une sorte de bande comme ça qui se crée de gens qui vont aller faire du terrain pendant un mois. Donc faire du terrain, concrètement, ça veut dire sur un endroit donné, par exemple, ben là on va en parler, mais c'était dans la montagne Limousine, donc dans le Limousin. Et ben dans un endroit donné, aller faire des entretiens avec plein de gens qui ont peu accès à la parole en général, la parole publique ou la parole médiatisée. Et récupérer des heures d'entretien et avec tous ces matériaux et en travaillant avec les personnes, faire une revue et du coup diffuser un peu les luttes et aussi les voix des personnes qu'on entend peu dans la revue. Donc ça, c'est un peu le principe, et chaque année il y a un thème. Et donc là par exemple, c'était sur l'industrie du bois dans la montagne Limousine, mais on a parlé de l'or, l'extraction minière en Guyane. On a parlé des violences policières depuis Vénissieux, ou de la catastrophe pétrochimique juste après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Donc voilà, pour donner quelques exemples.
Voilà, c'est une belle revue, très très bien maquettée. Effectivement, le numéro sur Vénissieux, je l'ai. J'étais abonné à l'époque et c'est vraiment très intéressant le fait d'aller sur un territoire avec un questionnement et une idée d'analyse, quoi, et en même temps de découvrir sur le terrain, que les articles aussi se créent de par les rencontres qui sont faites sur le terrain. C'est ça que j'ai toujours trouvé hyper pertinent dans cette revue, quoi. Et c'est assez rare, en fait, de pouvoir prendre ce temps-là dans le journalisme, quoi. Et donc là, si je t'ai fait venir ce soir, c'est aussi pour parler de la dernière revue, donc, qui est sur les forêts. Donc déjà, pourquoi les forêts, enfin, comment est né le thème? Et comment vous avez travaillé sur ce numéro ?
Ben déjà, on a une sorte de grande liste de thèmes qu'on aimerait traiter de toute la vie, quoi. Et donc, on a une sorte de fantasme qu'un jour on aura fait ça, ça et ça. Et dedans, il y avait les forêts qui traînaient depuis longtemps. Mais on n'avait jamais senti que c'était le bon moment. Alors, en fait, il faut savoir que dans le collectif Z, on n'est pas les pros de du formalisme. Enfin, il y a quand même un processus assez cadré, mais les choix des sujets, ils se font quand même de manière un peu intuitive, souvent. Et par exemple, la Guyane, c'était vraiment un coup de tête au moment où il y avait vraiment la lutte contre Montagne d'Or.
La Guyane, c'était votre dernier numéro?
Non, c'était en 2018. Ok. C'était le moment où il y avait la lutte contre Montagne d'Or, donc un super projet, on va dire le plus gros projet minier en France, si on considère que la Guyane est un territoire français, ce qui est tout au cœur du numéro, quoi. Mais en tout cas, il y avait ce truc-là, ou alors Lubrizol, l'incendie de Lubrizol, ça a eu lieu. Ben, on avait prévu de faire un numéro sur l'agro-industrie, et on a changé du jour au lendemain et on est allé là-bas. Des fois aussi le thème il est un peu imposé par les contraintes matérielles des personnes qui composent la revue, parce que ben il y a des personnes qui ont des enfants par exemple, ou qui ont plus ou moins de mobilité, du travail, voilà, plus ou moins de précarité. Donc des fois ben par exemple le numéro sur le féminisme, enfin l'exploitation des femmes dans le monde capitaliste. Depuis Marseille, bah, la ville de Marseille, c'était lié à une contrainte matérielle des personnes de la revue. Et là, la forêt, c'était un peu ça. C'est un sujet qui travaillait beaucoup quelqu'un de l'équipe, une copine, et ça lui tenait vraiment à cœur, quoi, de creuser ce sujet. Donc ça, c'est porteur, quoi. Enfin, ça nous donne envie. Et aussi, il y avait un peu ce truc qu'il y a des centaines de choses qui sortent sur l'industrie forestière en ce moment, avec un angle qu'on partage, d'écologie radicale, etc. Mais c'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup aux questions souvent de classe aussi, classe sociale et du travail, des corps. Et c'est vrai qu'il y a tout un courant de philo qui s'intéresse, par exemple, aux humains et non-humains en forêt ou chez des trucs comme ça, un peu d'anthropo chez Père. Et nous, on avait envie de aussi parler des humains dans la forêt, quoi, et des corps dans la forêt, et la forêt aussi comme un lieu de l'exploitation, et non pas comme un lieu de la nature préservée ou un lieu de... Enfin voilà, où on peut avoir des fantasmes. Enfin, et d'ailleurs, c'est au cœur un peu du numéro, de tous les fantasmes qu'on peut avoir sur la forêt, comme le grand lieu de la nature préservée, alors que ce qu'on savait avant d'arriver, mais que l'enquête a confirmé, c'est que c'est un lieu où s'exercent, comme partout, les violences capitalistes, quoi.
Et dans la revue Z, vous habitez plutôt en milieu urbain ou plutôt en milieu rural?
Ouais, c'est une bonne question, surtout que ça change. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est... C'est pas un groupe stable qui, année après année, fait la revue. Donc moi, par exemple, je suis arrivée en 2017 et maintenant, je suis presque la plus ancienne, d'une certaine manière. Et du coup, c'est quand même une revue qui a su gérer tout au long de sa vie plein de renouvellements. Et ça, c'est chouette. Et du coup aussi, en gardant quand même une sorte d'identité claire, la ligne politique, elle a... Je pense évoluer avec le temps aussi. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai vécu ma socialisation politique aujourd'hui, donc c'est pas exactement la même que des gens qui ont 10 ans de plus que moi, et les questions, elles se formulent pas exactement pareil. Et voilà. Et du coup, là, actuellement, mais à la base, c'était plutôt des personnes qui vivaient en région parisienne, plutôt vers Montreuil et tout. Mais là, actuellement, il y a personne, par exemple, qui vit à Paris. Et il y a une personne qui vit... à Bruxelles, une personne qui vit à Toulouse, y a des gens vers Dijon, donc il y a des personnes qui vivent en zone urbaine. Moi, je vis dans les Cévennes, et puis il y a des gens qui vivent dans la Drôme ou à Bure, enfin voilà, c'est un peu varié, on va dire.
Donc la revue est très dense, hein. On a dit ça fait quasiment 200 pages. Je pensais peut-être parler des articles que tu as écrits ou du moins co-écrits. Et il y a un article que j'ai trouvé passionnant qui est sur le pouvoir. En fait, comment le pouvoir a façonné les forêts en France. Donc que ça soit le pouvoir royal ou aujourd'hui des industriels. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet article
Et bah ouais, carrément, c'est mieux que je parle de ce sur quoi j'ai travaillé que du travail des autres. Peut-être, si ça va, je peux commencer par dire un peu qu'est-ce qu'on trouve dans la revue, si c'est...
Complètement, ouais. Ouais.
Pour replacer pourquoi il y a cet article-là, mais du coup, il y a un peu trois parties, quoi, comme dans la revue, mais évidemment, tout est lié avec tout, mais on a essayé quand même de donner une sorte de guide pour les lecteurs et les lectrices
de cohérence
voilà bon, après c'est toujours un peu artificiel mais ça aide quand même. Et du coup la première partie elle parle à la fois elle parle justement de ce que le pouvoir a fait aux forêts et aussi qu'est-ce qu'on appelle une forêt maintenant, enfin qu'est-ce que l'industrie aussi a fait aux forêts, parce que ce qu'on appelle des forêts
on aurait pu partir de cette question de base, quoi.
Voilà.
C'est quoi une forêt, quoi.
Voilà, mais du coup, nous, ce qu'on a rencontré, et on a choisi un peu volontairement un territoire pour ça, le territoire de la montagne Limousine pour ça, mais c'est plutôt de la monoculture d'arbres, parce qu'en fait, c'est un territoire qui n'était pas forestier au début du siècle. Il y avait genre 5%, il était boisé à 5% au début du siècle environ, et qui a été entièrement boisé par des actions volontaristes du pouvoir, enfin de l'État. En l'occurrence, et des industriels et des notables de la région qui se demandaient comment rendre productif ce territoire. C'était vraiment l'enjeu. Et donc, cette première partie, elle parle de ça. Et aussi, on voit comment ce territoire, il a essayé d'être devenir productif aussi pour les hommes, c'est-à-dire des gens, par exemple, des enfants réunionnais qui ont été placés dans des fermes pour servir de larbin, quoi, exploiter vraiment dans des conditions horribles. Et c'est ce qu'on, enfin du coup on connaît ça sous le nom des enfants de la Creuse, mais en gros c'est des enfants dont, les parents ont jamais vraiment donné un accord éclairé pour qu'ils soient envoyés en métropole et qui ont été dans des conditions horribles. Et ça, c'était sur le territoire où on a enquêté, et il y a aussi des paroles d'exilés, etc. Donc cette première partie, elle parle à la fois de la vision du pouvoir qui essaie de rendre rentable un lieu à la fois par la forêt, mais aussi pour les hommes, quoi. Enfin, comme un espace qui serait un peu inutile et qu'il faudrait rendre utile, quoi, quelque part, en choisissant comment il est peuplé, par exemple, d'arbres et d'humains. Donc ça, c'est la première partie. Et là, ça s'appelle « Servir les arbres sur un plateau » et c'est un super jeu de mots sur le fait qu'on est allé sur un plateau qui s'appelle le plateau de Mille Vaches. C'est hyper drôle. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment autour du travail dans la forêt, du travail des travailleuses du sexe, mais aussi du travail des industriels du bois et du travail des ouvriers. Et aussi le fait que la France a organisé une migration depuis la Turquie ou le Maroc. Et c'est vraiment organisé entre États pour faire venir des bûcherons, parce qu'il faut savoir que les bûcherons, c'est une des professions où les gens meurent le plus tôt, et encore aujourd'hui, même avec la mécanisation, la tronçonneuse.
Il y a un article très intéressant là-dessus, on en parlera peut-être plus tard.
Ouais, carrément. Et donc là, c'est à quoi sert le bois et qui coupe le bois en forêt. Et donc ça, c'est cette deuxième partie. Et la dernière partie, elle est vraiment sur les usages de la forêt, et c'est vraiment un peu comme une opposition. C'est en fait la forêt, c'est la forêt vivrière. En fait, énormément de gens ont dépendu et dépendent encore dans leur vie de la forêt pour vivre, et ces usages sont constamment vus comme criminels par le pouvoir, et du coup ces personnes vont subir de la répression ou être empêchées, quoi, de vivre. Et donc ça va mais on en reparlera, je pense, aussi si on a le temps, mais ça va de ramasser du bois mort, vivre, se cacher dans les bois, le marronnage ou d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, cette dernière partie, elle est plus autour de la forêt comme allié de survie pour les personnes exploitées, quoi. Voilà. Et donc l'article auquel tu faisais référence, il vient dans la première partie, et du coup c'est vraiment un peu pour poser le cadre de comment le pouvoir voit la forêt. Et si je parle longtemps, t'as le droit de me le dire.
C'est parfait pour moi.
Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que la dialectique de la forêt que moi, en tout cas, j'avais beaucoup dans mon imaginaire, qui est entre la forêt, c'est ce qui sert à faire du bois, Et la forêt, c'est ce qui est aussi un lieu de plaisir. En fait, c'est une dialectique qui est importée directement de la royauté. Parce que il faut savoir que les premières lois qui vont faire qu'il y ait une police en forêt, par exemple, ça vient du besoin de préserver des terrains de chasse. Donc la chasse, alors, en gros, la chasse, quand elle est faite par des gens riches, ça s'appelle la chasse. Et quand elle est faite par les autres, ça s'appelle du braconnage. Hein. En gros, c'est ça l'histoire. Mais il y a vraiment un gros enjeu à garder des territoires de chasse énormes, parce qu'en plus, c'est des chasses, des pratiques de chasse à court, donc où on pratique. Voilà, il faut beaucoup de territoires. Et donc, un des premiers enjeux, c'est de garder des terrains de chasse pour que la noblesse puisse se faire bien place, quoi. Et donc, ça, c'est plutôt dès le Xe siècle. Et petit à petit, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Que, en gros, une vraie police de la forêt va émerger pour permettre de préserver la chasse, parce qu'en parallèle, ce qui se passe en Europe, c'est que la population augmente, et que comme la forêt, elle est aussi vivrière, du coup, les humains, ils ont besoin de la forêt. Et du coup, il y a une pression qui commence à s'abattre quoi sur la forêt, la surface forestière diminue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours considérer que c'est les pauvres qui sont responsables de la déforestation, que c'est eux qui vont mettre en péril l'écosystème ou je sais pas quoi, enfin avec vraiment des pensées écologistes d'une certaine manière dès le 18e, 17e, enfin vraiment avec cette idée qu'il faut préserver les écosystèmes des pauvres quoi. Enfin, je dis écologiste avec des guillemets, mais en tout cas un truc autour de ça. Et ouais, donc il y a ça. Et par contre, on va jamais accuser la chasse ou les industries de, abîmer les forêts ou de. Enfin voilà, c'est pas un problème. Et notamment, quand je dis industrie, la première industrie de tout ça, c'est la guerre. Et voilà, donc dans l'article, j'essaie de montrer comment la guerre est quelque chose qui consomme beaucoup de bois. Et quand je dis la guerre, c'est aussi la colonisation. Donc à l'époque, c'est la guerre, donc sous Louis XIV par exemple, c'est la guerre navale, mais c'est aussi la colonisation. Et donc il y a ce fameux chiffre, pour un bateau de l'époque, il faut environ 3000 chênes centenaires. Et donc ça va devenir un vrai enjeu pour la royauté, au-delà des plaisirs de préserver la forêt pour faire des bateaux, pour faire la guerre.
Oui, c'est ça. Et que les forêts aussi ont été orientées façonnées par le pouvoir dans ce qui est planté aussi, quoi. Enfin, si on a des forêts de pins à des endroits aussi, c'est pas par hasard et c'est aussi le pouvoir qui a poussé à ça, quoi.
C'est ça. Et du coup, il y a eu un peu des essences reines. En fonction des besoins des dominants, quoi. Et donc là, ce que je racontais sur les chênes, ça, c'est plutôt sous Louis XIV. Donc, c'est des forêts qui existent encore, hein. Donc, le Troncé, la forêt du Troncé, par exemple, ou en Sologne, c'est des forêts qui ont été, des plantations d'arbres. Donc, vu que c'est de ça dont il s'agit, qui ont été mise en place sous Colbert, donc qui était l'espèce de super ministre de Louis XIV. Et après, en gros, là, ce qu'on constate, pour faire un saut dans le temps, c'est que les résineux, donc le pin dont tu parles, c'est vraiment un arbre qui a plein de qualités hyper chouettes pour l'industrie. Et du coup, c'est vraiment ça qui a été favorisé. Et par exemple, dans les années 60, je vais rester là-dessus. Dans les années 60, il y a eu une vraie politique de reforestation à l'après-Seconde Guerre mondiale. Bah, d'une part, parce que la guerre avait défoncé les forêts, mais d'autre part, parce qu'on avait besoin de bois quoi, pour le progrès et tout ça, et que c'était important. Et du coup, on a planté des pins, mais c'est vraiment. Enfin, les industriels, par exemple, ils parlent de récolte définitive quand ils coupent des parcelles, et ils font ce qu'on appelle des coupes à blanc, donc ils coupent. Une énorme surface, ils vont tout couper. En fait, les arbres, ils sont tous en ligne, ils ont tous le même âge, c'est tous les mêmes plantes, parce qu'il y a aussi tout le système des graines qui est aussi industrialisé. Donc c'est comme des copies conformes les unes des autres, et sur des hectares et des hectares, et au bout de 50 ou 60 ans, on va considérer qu'ils sont mûrs à être récoltés. Donc là, c'est vraiment le vocabulaire industriel, et donc on fait une coupe à ras ou à blanc. Et ensuite, on replante, etc., etc. Et donc ça pose des problèmes énormes d'écologie, mais aussi de modification des territoires, de violence pour les personnes qui vivent là. Et aussi, du coup, les industriels sont forcément un peu en panique parce que ça rend les forêts, je mets des guillemets, parce qu'encore une fois, on pourrait parlais de plantation d'arbres, on a essayé de bien distinguer ça dans le numéro, mais les forêts sont très sensibles aux maladies, parce que bah, c'est toujours pareil, s'il y a que des copies conformes du même arbre, bah, en fait, elles ont toutes les mêmes fragilités, et donc les maladies se propagent hyper vite, et c'est ce qui arrive aux épicéens en ce moment, qui sont tous en train de crever.
Moi, ça m'avait marqué cet été, en passant dans les Landes, genre des forêts alignées de pins, enfin vraiment la monoculture dans la forêt, quoi. Mais il y avait un point que je trouvais chouette dans l'article aussi sur les châtaignes, qui montrait aussi qu'il y avait une question de classe finalement dans les forêts, et que le pouvoir avait quelque part réprimé en fait tout ce que pouvait apporter la châtaigne, avec il y avait même des textes en fait dans l'article, tu t'appuies sur des textes qui montrent comment le pouvoir essaie de remettre ça en question, et je trouvais ça intéressant. Mais toi qui habites dans les Cévennes,
bah ouais, c'est clair, merci de poser la question, quoi. C'est clair, les châtaignes, c'est hyper important pour moi en ce moment même. Là, il y a plein de gens qui récoltent des châtaignes dans les Cévennes, donc c'est un peu une blague au long cours, parce que j'ai poussé pour parler des châtaignes dans le numéro, et à chaque présentation j'essaie d'en parler, et du coup c'est chouette que tu me poses la question, là tu tombes vraiment sur mon sujet. Mais oui, bah en gros l'idée, enfin ce qui est intéressant, c'est de regarder tout ce que disent les agronomes, parce qu'à un moment il y a cette science, quoi, de la botanique et de l'agronomie qui est vraiment la science de l'industrie des plantes, quoi, qui va se mettre en place. Et du coup, ces gens, c'est des dominants éduqués, ils écrivent beaucoup. Du coup, c'est hyper bien, parce qu'on a toute la trace de ce qu'ils pensent. Et donc, voilà, c'est pas 100% des agronomes qui défendaient ça, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que, en fait, le châtaignier, c'est l'arbre des paresseux. Parce que, du coup, les châtaignes, elles tombent toutes seules, et il n'y a qu'à, je mets des guillemets, hein, évidemment, mais se baisser pour les ramasser. Et que ça induirait, parce que, c'est cette fameuse marronne. Enfin, en gros, c'est quand même courant que les pauvres soient considérés comme des fainéants et des paresseux. Genre, ça se décline de plein de manières, mais voilà, c'est une des manières dont ça se décline. Donc, les gens dans ces régions, qui sont des régions pauvres et où c'est très dur de faire de l'agriculture par ailleurs, seraient paresseux parce qu'il y aurait ces arbres un peu trop généreux, quoi. Et donc on va décourager la culture de la châtaigne. Après des grands froids qu'il y a au 18e, on va vraiment empêcher ou décourager le fait d'en replanter. Et c'est aussi un moment où on jure que par le blé. Et par exemple, c'est à ce moment-là que le pin blanc fait son apparition. Et tout ce fantasme qu'on a autour du blé comme la céréale un peu parfaite, enfin ça c'est un peu des trucs qui vont au même moment, quoi. Et du coup les pauvres châtaigniers, ils ont même été vus comme je donne cette citation dans l'article, l'Eldorado des socialistes, quoi. Enfin, en gros, ce serait un arbre de socialistes, parce que ce serait un arbre de un peu fainéant, quoi, où finalement c'est trop nourricier, c'est trop simple, les gens ils peuvent trop bien vivre en juste ramassant des châtaignes. Il faudrait mieux qu'ils travaillent plus, quoi. Et donc, voilà. Toute une littérature un peu rigolote là-dessus.
On va faire une pause musicale et on se retrouve juste après.
Nous venons choisir nos chaînes et demain nous reviendrons. Pour abattre quelques chaînes, pour utiliser leur tronc. Savoir, mademoiselle, que pour faire un bon bâton, c'est du bois de chêne qu'il nous faut. On sait que les demoiselles ont tout un cœur d'artichaut. Nous, on n'a pas de problème, nous, on fait notre boulot. Mademoiselle, que pour faire un bon bâton, c'est du bois de chêne qu'il nous faut. qu'il nous faut, c'est du bois de chêne, qu'il nous faut, qu'il nous faut.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire dans l'émission Offensive Sonore. Et on est toujours avec Anna de la revue Z pour l'interviewer sur ce magazine sur les forêts. Et du coup, il y a un article sur les communs forestiers, donc les communaux. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs termes utilisés dans l'article, donc qui sont en gros, de ce que j'ai compris, des espaces qui étaient non privatisés et publics de la forêt, où chacun pouvait un peu se servir en bois, en gland, en châtaigne. Et donc ça, l'article traite en fait de comment ils ont été détruits en fait par le pouvoir. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu cet article ?
Bah ouais, carrément. Et notre envie de parler de ça, bah pour le coup, typiquement, c'est un article. On avait un peu cette idée en tête avant de partir sur le terrain, mais ça s'est révélé d'autant plus important une fois qu'on a fait tous nos entretiens et tout sur la montagne Limousine, parce que en fait, on a vu qu'il y avait plein de collectifs ou associations ou groupements forestiers qui mobilisaient le vocabulaire des communs pour leur action. Donc pour expliquer, en gros, il y a plein de groupes qui s'organisent pour acheter des forêts, des parcelles de forêt, des hectares de forêt, avec l'idée, souvent ce qui est dit, c'est les sortir de la propriété privée, les redonner au commun, et faire, enfin voilà, tout cet imaginaire qui aurait une troisième voie entre la propriété publique ou la propriété privée individuelle, et qui aurait une sorte de une troisième voie. Et nous, on trouvait ça intéressant, et on avait aussi envie d'aller creuser. Parce que souvent, quand les gens immobilisent les communs, on pense au moment où les champs ont été enfermés en Angleterre, aux enclosures. On appelle ça, c'est un moment en Angleterre où y a eu des clôtures qui sont apparues et il y a eu des gros mouvements.
C'était quand ça ?
C'était au 16e et il y a eu des gros mouvements populaires contre ça. Et par exemple Sylvia Federici, dans son livre, elle en parle, il y a notamment pas mal de femmes qui se sont soulevées, et donc souvent on pense à ça, mais en fait 16e et 17e aussi en fait on sait pas trop qu'est-ce que c'est en France finalement. Enfin, souvent on pense, je dis on, mais quand on cherche de la littérature ou les gens qui connaissent un peu les histoires des communs, ils savent ce qui s'est passé en Angleterre, mais ils connaissent pas les communaux, et notamment les communaux forestiers, qu'est-ce que c'était et tout. Et du coup, nous, on avait envie de parler de ce qui s'est passé en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, enfin, donc plutôt en Angleterre, l'histoire, c'est des champs, mais en fait, ça appelle vachement à des questions du paysage, parce que ce qu'on appelait forêt, en fait, à l'époque, c'était pas des forêts comme on l'imagine, c'était vraiment des forêts habitées. Donc il y avait des grandes clairières, des prairies, elles étaient beaucoup moins denses en termes d'arbres, enfin c'était beaucoup, en fait finalement la différence entre ce qui était une forêt où il y avait des landes, enfin ce qui était une forêt ou pas une forêt était beaucoup plus flou. Et en fait les communaux, parce que il y avait une forme de droit d'usage. En gros, le droit au médiéval, le médiéval, il est très complexe, et il n'y avait pas encore ce truc de la propriété privée de la bourgeoisie qui est apparu à la Révolution. Enfin, ça, on le connaît et tout. Et c'était des droits d'usage très complexes, et parce qu'en fait, en gros, les gens propriétaires, c'était soit le clergé, soit les nobles. Donc, autant dire que c'était genre 1% de la population. Donc, même pas, quoi. Donc, du coup, en gros, personne n'était propriétaire, et pourtant, les gens y vivaient à des endroits. Donc, c'est qu'en fait, ils avaient des formes de droits d'usage sur des territoires, droits d'usage qui gagnaient grâce à des luttes et qui payaient avec des impôts, mais en tout cas qui leur permettaient d'avoir des formes de pratiques sur des lieux. Et donc souvent les seigneurs se gardaient un peu les belles parts, et puis les parts moins productives, moins classieuses, ils les cédaient à force de rapports de force aux paysans et paysannes des communes du coin. Et là-dessus, les paysans et paysannes avaient possibilité de ramasser du bois mort, donc ça s'appelle la fouage. Il y a aussi la glandée, donc c'est d'aller amener les cochons en forêt quand il y a les glands qui tombent, etc. Donc il y avait toute une forme, toute une série de droits. Il y avait aussi le marronnage, donc là c'est plutôt pour prendre du bois d'œuvre, donc pour faire des bâtiments. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et
en même temps, vous dites dans l'article, faut pas idéaliser
c'est
les communs.
Et ouais, c'est exactement. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est nous, on trouve que actuellement, ceux qui mobilisent souvent le terme de commun, souvent c'est des gens d'une certaine classe sociale aussi, et qui ont tendance à. Donc là, je généralise. Hein, je dis pas que c'est tout le monde, mais qui ont tendance parfois à imaginer que avant c'était super, et comme ça, il y avait cette espèce de communauté paysanne une et unie qui allait faire des grands travaux ensemble et que c'était super, mais en fait les communautés paysannes elles-mêmes étaient travaillées par des rapports de classe, race, genre. Enfin, il y avait par exemple des travailleurs qu'on dirait migrants aujourd'hui, ou en tout cas qui étaient pas sédentaires, qui passaient de village en village, un peu saisonniers, quoi. Il y avait aussi évidemment des notables, enfin, et qui avaient la part du lion, enfin bref. Évidemment, c'était pas non plus, ces communaux, c'était pas genre une sorte d'égalité parfaite, et faut évidemment pas les idéaliser. Mais en tout cas, c'est ça qui. Enfin, il y a ce truc hyper paradoxal qui est encore très vrai pour plein de choses aujourd'hui. C'est que les personnes qui en bénéficiaient le plus, c'était les personnes les plus aisées, les plus riches, qui avaient le plus de privilèges. Mais les personnes qui en dépendaient le plus pour leur survie, c'est les personnes qui avaient le moins. Et donc, en fait, les personnes les plus précaires, pour elles, c'était leur moyen de survie. C'était, même si elles avaient peu, bah, c'était beaucoup plus important, finalement, pour elles, ouais, voilà, pour vivre, quoi.
Du coup, un des autres articles que tu as coécrit, c'est sur la police. Un article très intéressant qui parle notamment aujourd'hui, en fait, de quel est le rôle de la police en forêt, et notamment bah voilà, de réprimander les prostituées, les jeunes, et aussi les militants écologistes. Et aussi, vous faites un retour sur l'histoire de la police en forêt. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de cet article ?
Ben oui, d'autant que c'est lié avec la suite de l'histoire des communs, parce que la suite de l'histoire des communs, c'est un peu comment ils ont disparu. Et donc, ce qu'on montre dans l'article, c'est. Enfin, ce qu'on montre, en tout cas, ce qu'on. Voilà, on n'invente pas hein, ce qu'on dit. Pour le coup, on lit beaucoup. Ça vient de, voilà, des sciences sociales, des sciences humaines, de l'histoire.
Oui, c'est une revue
tout.
Très sourcée aussi, oui, documentée.
Voilà. On ne se prétend pas historien. On s'appuie sur des travaux de, voilà, d'universitaires militants voilà, dont on s'en proche. Et donc, ce qu'on montre, c'est que ces communs, en fait, ils ont disparu non pas du jour au lendemain, mais suite à de multiples luttes, petit à petit, dans différentes régions. Et que, en fait, ça a été notamment favorisé par le fait qu'il y ait eu une police en forêt qui a été instaurée. Bon, donc, je l'ai dit, les premiers gardes forestiers, gardes champêtres et tout, ça date vraiment de longtemps. Genre, je crois que c'est Charles X, enfin, c'est peut-être le XIIe siècle ou un truc comme ça. Enfin, là, j'ai pas l'article sous les yeux, mais. C'est vraiment très vieux, mais en tout cas, il y a eu vraiment un moment un peu charnière voilà, un moment d'empire en 1827. Il y a vraiment le code forestier qui est passé, et là, il y a les salamandres qui sont donc une police de la forêt et qui sont appelés comme ça j'allais dire le peuple, mais enfin, en tout cas, des gens, des paysans, parce qu'ils sont habillés en vert et jaune. Donc les salamandres, ils ont le droit et le devoir, quoi, d'aller mettre des amendes aux pauvres qui viennent voler le bois au moment où les communaux deviennent interdits. Et il y a eu des révoltes contre ça, et aussi on le montre dans l'article sur les communaux. Et la plus connue, c'est la guerre des demoiselles en Ariège, donc ça c'est en 1830. Mais par exemple, on donne un autre exemple qui est au début du XXe siècle, toujours dans les Pyrénées, où là, c'est vraiment un village qui a brûlé le château et qui a vraiment fait. Ils ont foutu le zbeul, quoi, pour défendre leurs communaux. Et donc, l'histoire de la police est vraiment très liée à l'histoire de la fin des communaux. Et donc, ça, c'est vrai que c'était important pour nous de le raconter, parce que le territoire où on est allé, La montagne Limousine, c'est un endroit où les personnes qui luttent pour un peu une vision de la forêt qu'on trouve, qu'on a envie de soutenir, quoi, qui serait une forêt qui ne serait pas uniquement au service de la classe dominante et de l'industrie, ben, en fait, ils se font réprimer extrêmement violemment. Et tout l'arsenal antiterroriste qui est souvent depuis longtemps employé sur les pauvres ou les militants, ben, il est aussi employé sur les militants écolos qui se battent pour les forêts. Et à titre d'exemple, ben, il y a un groupement forestier citoyen, donc pourtant on n'est pas là, c'est pas la révolution, hein, c'est des gens qui s'organisent pour acheter des 3 hectares de forêt par-ci et 10 hectares de forêt par-là, enfin... Je sais pas comment dire, ils n'ont pas des calages, quoi. C'est tranquille, quoi. Ben, qui a été sous écoute pendant hyper longtemps. Ben, il y a une affaire antiterroriste en cours qui est donc, je vous invite à vous renseigner, c'est les inculpés du 15 juin. Et c'est lié à des sabotages d'antennes 5G, 4G.
5G.
5G. Ouais. Je date un peu. Hein. Non, 5G, je rigole. Mais en tout cas, voilà, il y a une affaire antiterroriste en cours. Et en fait, les personnes dans leur dossier, les personnes inculpées, ont découvert que parmi les choses qui leur étaient reprochées, c'était d'être préoccupées par l'état des forêts. C'était vraiment en page 2, enfin, je ne sais pas si c'est page 2, mais au
tout début. Et en plus, ils avaient en leur possession une revue Z, quoi.
Ouais, bon, ouais. Alors là, c'était encore la pirouette. En effet, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a eu un communiqué suite à un des sabotages qui a été produit sur le journal Mutu, donc le journal militant et participatif du coin qui s'appelle La Bogue et qu'on vous encourage vivement à consulter si vous allez dans le Limousin. Et du coup, il y a eu un communiqué qui s'inspirait d'un texte qu'on a publié, enfin qui est en fait une traduction d'un truc anglais qu'on a publié dans la revue sur la Guyane et sur l'or, mais qui par ailleurs était déjà sorti en infokiosque et tout. Et du coup, ben voilà, pendant les perquisitions, les flics cherchaient la revue sur la Guyane et du coup ils l'ont trouvée chez une des personnes inculpées. Et évidemment, ils étaient extrêmement heureux. C'était vraiment comme une preuve que vraiment ils avaient trouvé les bonnes personnes. Donc voilà, nous, quand on a su ça, on s'est dit, ben tiens, on voulait parler des forêts, ben on va aller dans le Limousin en fait, parce que c'est hors de question que ces personnes qu'elles se retrouvent toutes seules et si la revue Z est utilisée comme justification dans un procès pour chercher à condamner des personnes écolos, bah, au contraire, allons les voir, allons les rencontrer et parlons de leur situation complètement abusée. Et donc, en effet, c'est pas le cœur de la revue, mais il y a quand même une page qui raconte ça. Et donc, il y a le comité en soutien au 15 juin et aux inculpés du 15 juin. Et n'hésitez pas à vous renseigner.
Et pour la petite histoire, moi j'étais allé faire un concert avec Dubamix en soutien près de Limoges, justement, en soutien à un concert anti-répression, en soutien aux inculpés du 15 juin. Et il y avait hélicoptères, les keufs qui avaient fermé toutes les routes et compagnie. Donc,
Peux me permettre, ouais. C'est carrément ça qu'on a. Et d'ailleurs, on parle de ça aussi dans la revue. C'est un territoire militarisé où il y a une bonne partie de la forêt. C'est un lieu d'entraînement militaire qui s'appelle la Courtine, qui est une des plus grosses bases militaires de France. Et par ailleurs, les espaces militarisés des frontières, c'est souvent des forêts aussi. Il y a un truc, en tout cas. Important là-dessus. Et pour la petite anecdote, ben, nous, en ce moment, on a des. On aurait été visé par une plainte du lobby de l'industrie forestière. Donc France Bois Forêt aurait porté plainte contre nous pour un article qui parle du sabotage, de l'histoire du sabotage dans les luttes écolo et décoloniales féministes. Et voilà, on n'en sait pas plus pour le moment, mais et puis voilà, qui porte plainte. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'est un sujet chaud. C'est un sujet qui fait que des personnes sont interdites de bouger de chez eux, interdites de sortir de leur département, et que avec de la répression, des hélicos, enfin c'est voilà des moyens de renseignement. Enfin, c'est un sujet qui où l'industrie et les pouvoirs ont des enjeux très forts, quoi.
Yeah.
voilà, donc c'est vraiment une revue très dense avec plein d'articles intéressants. Il y a notamment des articles sur un bûcheron marocain qui travaille dans vraiment enfin esclavagisé, quoi, on peut dire, hein, franchement, les conditions de travail terribles. Sur les scieries aussi, intéressant. Une concentration de ouf, genre. Enfin, moi, j'avais noté ce chiffre-là, que 5 scieries en France concentrent 50% du sciage. Il y a également genre Sylvie qui vient nous parler de... Enfin, voilà, qui est camionneuse transport de bois et qui parle de ses conditions de travail. Voilà, dans... et aussi de ses conditions en tant que... Enfin, de ses conditions de travail en tant que femme. Camionneuse dans un univers très masculin, très intéressant. Est-ce que toi, il y a un article dont tu as envie de parler en particulier?
Ouais, c'est toujours pareil, au début on ne sait pas ce qu'on va raconter, puis après on a envie de parler de tout, mais peut-être il y a un... Enfin, en effet là c'est bien, tu as rappelé qu'il y a toute une partie du numéro qui parle de... du travail, et ça, bah, c'était vraiment hyper important pour nous, et du coup... Bah, c'est bien que tu l'aies rappelé, et peut-être juste pour dire qu'on trouve des articles aussi qui parlent de la forêt coloniale, et donc on n'a pas beaucoup abordé ça dans l'émission, mais c'est présent aussi, et à la fois les imaginaires coloniaux sur la forêt, c'est-à-dire que bah, la forêt, c'est sûr que c'est une sorte de nature préservée, romantique, ou... les hommes, enfin voilà,
le mythe du bon sauvage un peu.
Et bah non, c'est ouais, oui, en tout cas, c'est un endroit où les hommes peuvent aller comme se questionner, se poser des questions métaphysiques un peu hors du monde. Alors qu'on a vu que les forêts n'étaient pas hors du monde, qu'elles étaient habitées, qu'elles étaient même des espaces nécessaires de survie pour plein de gens. Mais dans les colonies, ce qui s'est passé, c'est plutôt l'inverse. C'était des jungles, c'était des endroits hostiles, c'était vraiment des comme quelque chose qu'il faut combattre, et du coup il y a vraiment l'imaginaire d'une forêt hostile
à
conquérir, et donc on retrouve un peu un truc qu'on avait déjà tissé parce que le numéro sur la Guyane, il s'appelle Trésors et conquêtes, et en fait vraiment on trouve que ces idéologies du trésor et de la conquête, c'est comme en termes de symboles et de fantasmes vraiment des moteurs du colonialisme, quoi. Et du coup, bah voilà, on retrouve ça sur les forêts, et puis un article par exemple sur les parcs nationaux au Zimbabwe. Donc ça, c'est actuel, et c'est des villageois qui sont et villageoises qui sont exclus de des forêts où il y a les tombes de leurs parents et grands-parents, j'allais dire ancêtres, mais là on parle de, enfin voilà, c'est pas des ancêtres, c'est de leur famille. Pour des questions de tourisme, voilà, et ou encore écologiste. Donc attention à l'argument écolo quand on exclut des populations locales des forêts pour les préserver. Ben voilà, faut avoir conscience que c'est des choses mobilisées par le pouvoir. Donc là, en l'occurrence au Zimbabwe, c'est plus une colonie, mais enfin c'est un pouvoir post-colonial qui a complètement intégré cette dialectique-là, et donc c'est encore très actuel partout dans le monde. Il y a plusieurs bouquins, mais dont un bouquin très intéressant d'un mec qui s'appelle, je sais plus son prénom, mais Blanc en tout cas, sur les genre Guillaume Blanc, je pense, sur les parcs nationaux, l'histoire des parcs nationaux, et voilà, c'est une histoire coloniale et c'est très intéressant, et voilà, on parle aussi de ça.
On arrive bientôt au terme de l'émission. La revue Z est éditée par les éditions de la dernière lettre.
C'est ça.
C'est ça. Et vous publiez aussi des livres.
Ouais, on essaye. Alors, en gros, on a été obligé de créer notre maison d'édition pour continuer à publier la revue, parce que pendant des années, c'est une maison d'édition qui s'appelle Agone qui est gentiment... nous permettait d'accéder au réseau librairie. Et puis à un moment donné, c'était quand même pas très simple, cette espèce de montage alambiqué. Donc on a créé notre maison d'édition pour diffuser la revue. Et quitte à avoir créé la maison d'édition, on s'est dit, bah tiens, on pourrait peut-être aussi faire des livres. Donc voilà, pour le moment, moi souvent je dis la ligne politique, c'est qu'on fait des livres dont on a envie, et sur souvent des ouvrages un peu qui n'auraient pas accès aux librairies souvent, parce que ben là on n'en a pas du tout parlé, mais c'est aussi une partie intéressante. Enfin, l'industrie du livre, c'est une industrie capitaliste qui favorise la concentration, les projets simples, courts, efficaces. Et voilà, nous on essaie de publier de temps en temps des trucs qui nous parlent plus au long cours et qui auraient pas forcément... Enfin, le fait d'être bénévole ou quasi bénévole, nous... Enfin, même si j'aime pas trop le mot de bénévole, mais en tout cas non rémunéré, on va dire, ou peu rémunéré, ça permet à des livres qui auraient pas trop leur place sinon d'exister. Et donc, on a par exemple publié un bouquin sur le pain qui s'appelle Notre pain est politique, un bouquin sur l'autodéfense féministe qui s'appelle Pour l'autodéfense féministe, voilà, des choses comme ça. Et on a un site qui s'appelle La Dernière Lettre. Toutattaché.fr, et dessus on peut commander la revue, mais aussi les livres, et on peut aussi aller en librairie et faire vivre les libraires et commander la revue là-bas. Et voilà, évitez juste d'aller à la FNAC et aller voir votre petit libraire sympa de votre quartier, et puis voilà, il peut commander la revue Z s'il n'a pas, et en plus comme ça il connaîtra la revue, et donc c'est chouette aussi pour nous.
Alors, je ne sais pas si c'est secret, mais le prochain numéro Z, sur quoi il est et quand il paraîtra ?
Eh ben, sur quoi il est, ça, c'est tellement secret qu'on le sait pas nous-mêmes, quoi. Donc voilà, je peux pas te répondre, mais c'est pas pour faire une sorte de faux suspense ou je sais pas quoi. Et par contre, on sait que cette année, on sera un peu décalé sur la publication. Bah, un peu toujours, là, on en a peu parlé, mais à cause des contraintes matérielles des uns, des unes, des autres. Mais voilà, en tout cas, il y a des réunions, on espère bien qu'il y aura un Z16. Et puis, en tout cas, ça nous a donné beaucoup d'énergie de travailler sur un sujet voilà, un peu, on va dire, très visible sur les questions écolo. Enfin voilà, les rayons forêt dans les librairies, il est très fourni, et d'essayer d'y amener peut-être des choses qu'on lit moins ou avec une vision un peu différente. Et c'est aussi une manière, enfin, parce que toutes les personnes qui composent la revue, c'est des personnes militantes, et du coup c'est aussi une manière de donner des outils pour les luttes et d'amener d'autres regards, et de voilà, essayer d'allier un peu une pensée d'écologie radicale anti-industrielle, mais aussi attentive aux différents rapports de domination. Et donc c'est sûr qu'en tout cas on retrouvera ça dans la revue.
Merci pour cette émission. Donc, la revue Z, un magazine à découvrir dans tous les bons kiosques, dans toutes les bonnes librairies. Et aussi, vous pouvez vous abonner. Il y a un truc d'abonnement en ligne, je crois. Non ?
Si, si, carrément. C'est un peu bizarre parce qu'on s'abonne pour un numéro par an. Donc, c'est un abonnement où on a le temps d'oublier qu'on est abonné. Puis après, on fait « Ah, c'est vrai, j'étais abonné !» Mais en tout cas, on peut s'abonner, ouais, carrément.
Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et tu sais, mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière, tu parles d'une carrière dans une firme planétaire. Je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants. Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et après tout, j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit. Et Dans 3 ans c'est la retraite. Je sauverai pas la planète. Je vais pas me prendre la tête, non. Pas me prendre la tête, non. Non. Je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonne bordure. Moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement au minimum d'air pur. Hey, faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse, je profiterai de la vieillesse. Faut pas compter sur moi. Dans ce bordel y'a plus que toi. Dans ce bordel y'a plus que toi. Et toi t'es celui qui rêve. Je t'envie, j'en crève. Que ma vie est triste. Que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es. Je te laisse mes regrets et mon amertume. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont vécu grassement, qui te laissent un héritage. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont traversé les temps sans faire de sentiments. Et après, et après, et après.
Représenter un arbre que vous avez connu ou particulièrement aimé. Cet arbre, vous le placez dans le cadre de votre choix. Un, vous êtes à l'écoute. Deux, avec qu'une idée. 3. Vous êtes heureux. Vous êtes calme et fort. Calme et fort. 1, 2, 3. Vous devenez cet arbre. 2, 3. Vous êtes un arbre. Devenez cet arbre. 2, 3. Vous êtes un arbre. Et grâce à votre imagination, vous percevez le bleu du ciel, les petits craquements, le chant des oiseaux, les nuages.
Retenez votre souffle, retenez le chant.
chant des oiseaux. Retenez votre souffle, retenez l'odeur des fleurs. Retenez votre souffle, retenez le bleu du ciel. Retenez votre souffle, retenez les petits craquements. Retenez votre souffle, retenez le bleu du ciel. Retenez votre souffle, retenez les nuages. Retenez votre souffle, retenez la terre humide. Retenez votre souffle, retenez les nuages. Retenez votre souffle, retenez les petits craquements. Retenez votre souffle, retenez l'odeur des fleurs. 1, 2, 3. Vous devenez cet arbre. 2, 3. Vous êtes un arbre.
to. I listen to the shadows. I play among the graves. My heart was never.